Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et Dewani Wamakaran.
Le Grand Dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chienne Berry.
Halou Dumondi.
Chienne Berry. Sigi Kafoba.
Le Premier ministre malien a sollicité cette semaine des fonds pour le financement du plan de développement des régions du Nord, alors que le rapport annuel 2015 du vérificateur général du Mali révèle des irrégularités de gestion de fonds dans plusieurs services et administrations au Mali, avec un détournement de plus de 70 milliards de francs CFA de 2012 à 2015. Dans ce débat, nous parlerons également de processus de paix avec le nouveau compromis entre CMA et plateforme, et également de la crise au sein de la Fédération malienne de football. Nos invités, ils sont tous journalistes. Serge Daniel et Diakari Diaye aussi avec nous dans ce studio. Et Bandjougou Danté et Paul Ben au téléphone. Je suis Mohamedou Touré. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Alors, nous allons commencer cette première partie avec cette information. Le Premier ministre malien qui a présenté cette semaine à Paris au siège de l'Organisation de coopération pour le développement économique OCDE, le plan des perspectives de développement des régions du Nord. Écoutons déjà Abdoulaye Idrissa Maïga.
Les besoins de la stratégie sont estimés à environ 3,340 milliards d'euros, dont environ 362 milliards de CFA, donc 16,52%, sont acquis sur la base de projets et programmes bien identifiés. Et environ 83,48% de ce montant sont à rechercher.
Et c'était là la réaction de Monsieur le Premier ministre malien. Écoutons maintenant Clément Dambélé, qui est politologue, qui fait son analyse.
Si aujourd'hui le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta obtient les fonds nécessaires pour relancer économiquement le nord du Mali, je pense que ça va régler à 80% le problème. Parce que vous savez, là où les gens trouvent l'autosuffisance alimentaire, là où il y a de l'emploi, là où il y a un bon système éducatif, là où on peut avoir une bonne santé, ça apaise les tensions, ça stabilise les gens, ça permet la communication entre les gens. Quand les gens ont faim, quand les gens ont soif, quand les gens sont malades, ils ne peuvent pas accéder à ces grands discours politiques. Ils sont plus fragilisés face à d'autres personnes qui viennent s'aimer la zizanie et qui viennent leur proposer des solutions alternatives qui ne sont pas toujours de bonnes solutions.
M. Diakari Diaye aussi, que pensez-vous de ce plan dont le coût d'exécution est estimé à environ 362 milliards de francs CFA et également à ce jour seulement 16,52% sont acquis?
Merci M. Touré, bonsoir à toi et à tous les auditeurs de Studio Tamani. Je crois que c'est un plan assez ambitieux. Mais le problème est que au jour d'aujourd'hui, le montant déjà mobilisé est très très faible. Le Premier ministre a parlé d'environ 16%. Et l'autre problème à signaler, c'est que les partenaires qui doivent accompagner le Mali dans l'exécution de ce plan-là sont en même temps ceux-là qui, à un moment donné, accusent en tout cas le gouvernement et les mouvements armés de traîner le pied dans la mise en place, enfin la mise en œuvre de l'accord de paix. C'est-à-dire que je ne suis pas très très optimiste. Surtout que ce n'est pas la première fois que un tel effet d'annonce fait surface. On se rappelle qu'il y a deux ans, on avait annoncé la même chose, mais là, c'était pour l'ensemble du Mali. Par rapport aux régions du Nord, je crois qu'il faut faire extrêmement attention. À chaque fois, on annonce beaucoup, beaucoup d'argent. De deux choses l'une, soit l'argent annoncé n'est jamais disponible, ou s'il est disponible, il est utilisé pour d'autres fins.
Et la mise en œuvre de ce plan est prévue entre 10 jusqu'à 15 ans. Alors déjà 16,52% sont obtenus, mais vous êtes toujours inquiet par rapport à l'obtention du reste.
Non, je suis inquiet parce que les gens qui donnent sont ceux-là qui suivent également la mise en œuvre de l'accord. Tant qu'il n'y a pas des avancées significatives ou en tout cas telles qu'ils le souhaitent, c'est ceux qui ne mettront pas la main à la poche.
D'accord. Serge Daniel, vous, qu'en pensez-vous?
Il faut attendre le retour du Premier ministre pour savoir combien il y aura d'intentions de combien de personnes, combien les gens vont accepter de mettre dans la cagnotte. Mais il faut revoir les choses autrement. Depuis 22 ans, vous avez beaucoup d'argent qui ont été investis dans le nord du Mali. De ces sommes faramineuses parfois ont été plus ou moins mal gérées. C'est lorsque vous demandez de l'argent à la communauté internationale, il faut vous porter garant de la bonne gestion de ces fonds. C'est en ça que le plan que propose le gouvernement, parce que j'ai vu quelques lignes, que ces plans sont, ce plan est intéressant en matière de décaissement et surtout en matière de structure de veille pour vérifier ce qui est fait de cet argent-là. Je ne pense pas qu'on puisse avoir, au retour d'après ce que j'apprends du Premier ministre, qu'on puisse avoir 20% de cette somme. Il y aura des intentions, mais vous savez, il y a des intentions des gens qui investissent déjà. Donc ce que des bailleurs de fonds vont dire, c'est que nous sommes déjà en train d'investir dans tel domaine, donc il faut considérer que ça fait partie de ce fonds-là. C'est normal d'aller chercher de l'argent à l'extérieur. Le Premier ministre, avant de partir, comme vous le savez probablement, a demandé un audit sur la gestion des fonds nationaux, parce qu'il y a quand même l'État, en termes de programme d'urgence, le ministère de la Solidarité a déclaré des fonds qui auraient été investis dans le Nord. Les rebelles ont contesté. Le Premier ministre a demandé qu'on voit clair dans l'affaire. Donc c'est un gage, si vous voulez, pour les bailleurs de fonds, pour aider le Mali. Mais à mon avis, le Premier ministre ne reviendra pas à Bamako avec grand-chose.
Est-ce que la mise en œuvre de ce plan est également liée au processus de paix, comme le pense M. Yossi?
Mais c'est évident, parce que quand vous avez des gens qui sont qui manient à la fois le bâton et la carotte, il est évident que si vous avez besoin d'eux, matériellement, ils vous disent faites ça, faites ça, faites ça. Donc c'est aussi ça un peu le plan. Je pense qu'il ne faut pas aller seulement chercher de l'argent en Europe. Parce que la particularité des pays européens, c'est qu'ils parlent désormais d'une seule voix. En matière de défense, en matière de coopération, en matière économique. Alors qu'il faut diversifier les sources, à mon avis, de coopération technique. Pourquoi pas la Chine? Il faut aller voir ailleurs. Et puis, en plus, il faut trouver des modes de financement innovants. C'est-à-dire, vous avez des pays aujourd'hui qui prennent des taxes sur des billets. Donc, il faut penser à cela. Alors, vous avez vu récemment, pour terminer, on a eu, au Mali, on a acheté des avions militaires, mais ces avions militaires ont été achetés sur fonds propres. Pourquoi? Parce que à l'époque, il y a eu un ministre de l'économie et des finances, M. Igor Diarra, qui a créé de nouvelles taxes pour permettre à l'État de s'équiper militairement. Donc je pense qu'il faut aller vers ce genre de financement et ne pas attendre tout de l'extérieur.
Banyoukou Danté, vous êtes avec nous au téléphone. Monsieur Yossi craint une autre chose qui est le fait que l'État se concentre sur le Nord avec ce plan de développement qui concerne les régions du Nord et le Sud. Alors,
bon, moi je pense que aujourd'hui on ne peut pas parler du développement du Nord sans parler du Sud, parce que nous sommes dans un pays quand même, les choses sont liées, et le Sud est obligé d'avoir des relations économiques fortes avec le Nord et vice versa. Donc, moi je pense que ce qui est très important, au lieu de chercher des soutiens financiers importants, c'est-à-dire que les pays européens désormais parlent d'une seule voix. Cela est extrêmement important, mais il faut quand même qu'on arrive à nettoyer d'abord la zone, à nettoyer le Nord, débarrasser cette zone-là d'abord de tout ce qu'il y a comme force négative qui empêche effectivement le développement. Même si on part chercher de l'argent, qui va être investi dans les projets de développement économique, qui va assurer la viabilité de ces projets-là, qui va assurer la pérennité de ces projets. Moi, je pense que autant les pays européens parlent le même langage, d'une seule voix, il faut d'abord que nous commencions par trouver les voies et moyens comment assainir sécuritairement la zone avant d'investir quoi que ce soit.
D'accord. Est-ce que vous pensez à la CMA et la plateforme quand vous parlez de force?
Ben, est-ce que la plateforme et la CMA sont les seules forces dans la zone? Finalement, on ne sait même plus qui est qui et qui fait quoi. Mais moi, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on réussisse, bien que la zone soit très vaste, bien que la zone soit climatiquement hostile et austère, mais il est quand même important qu'on arrive à sauver ce qui est élémentaire, la paix, la sécurité, et que l'État assure sa présence. Si un État est absent dans une zone et que cet État va chercher de l'argent, mais pour investir dans quoi? On investit pour la population, on investit sur le territoire. Et à partir du moment où l'homme est absent, à partir du moment où l'État lui-même n'est pas véritablement présent, c'est aller prêcher dans le désert ou bien l'argent va prendre d'autres directions.
D'accord, Serge, certains observateurs craignent qu'il y ait un plan mais pas d'action.
Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il peut avoir un plan. Il y a cette crainte qui existe. Et vous savez pourquoi? Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la première crise qu'on connaît dans le septentrion malien. Et j'espère que ça va être la dernière. Même si, quand vous observez ce qui se passe aujourd'hui, il peut y avoir de l'inquiétude dans certaines localités. C'est-à-dire que je suis persuadé qu'il y a une conférence à faire sur le bilan des aides que nous avons reçues pas seulement dans le nord du Mali, mais dans tout le Mali, si vous voulez, et qu'on puisse faire un bilan en disant qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Je vous assure, quand vous voyez les chiffres, quand vous voyez les diplomates, vous voyez les hommes d'affaires, les hommes politiques, quand vous dites combien ont été investis, combien on a investi dans le nord du Mali, depuis la première crise, depuis les années 90, vous vous dites, mais zut, qu'est-ce qu'on a fait de cet argent-là? Vous savez, la route, par exemple, Gao, Kidal, ce n'est pas aujourd'hui qu'on parle de la construire. Il y a une vingtaine d'années, déjà, il y avait des projets. Qu'a-t-on fait de tout ce pognon-là? Il faut tirer les leçons. Si vous ne tirez pas les leçons, vous ne pouvez pas réussir. J'ai entendu tout à l'heure notre collègue au téléphone parler de la présence de l'État. Il est évident que l'État doit être présent. Mais vous savez, c'est un peu l'Australie en termes de distance. Vous parcourez dans le septentrion malien, vous faites 6 heures sans voir quelqu'un. Donc il faut également réinventer, de mon point de vue, le développement dans cette zone-là. Les gens sont nomades, si vous voulez. Et quand ils ont des bêtes, par exemple, et que vous avez le pâturage qui se trouve vers la frontière du Niger, ils se déplacent vers la frontière du Niger. Donc ce qu'il faut, c'est un plan de développement transversal. C'est-à-dire que ce sont des cultures nomades, et il faut forcément inventer l'école nomade, les centres de santé nomades, et c'est ce qu'il nous faut, c'est pas seulement l'argent qu'il faut. Donc je suis tout à fait d'accord quand on parle de mode d'action qui me paraît quelque chose de fondamental dans ces zones-là.
Est-ce que vous craignez une frustration au sud quand l'État va se concentrer beaucoup plus au nord?
C'est tout à fait normal qu'il y ait une frustration au sud, et c'est ce que je dis généralement. Ce que je dis généralement, c'est que si vous voulez que le nord soit solide, il faut que le sud soit solide. Et le centre, c'est évident, sinon ça devient un ventre mou. Parce que le fait, par exemple, de dire nous pour les régions nord du Mali, le Mali c'est quand même un pays qui a un sud, qui a un centre. Est-ce que vous voyez, je pense même que la formulation n'est pas bonne, mais c'est une formulation qui en termes de marketing est très important pour la communauté internationale. Vous avez des localités où vous avez une densité de 3 habitants par kilomètre carré. Ce n'est pas une densité, c'est pas une localité qu'on peut gérer, si vous voulez, comme le sud. Mais il faut également penser au sud.
D'accord. Alors, Diakar Diayossi, il y a également le rapport annuel 2015 du vérificateur général du Mali qui révèle des irrégularités de gestion de fonds dans plusieurs services et administrations au Mali, avec un détournement de plus de 70 milliards de francs CFA de 2012 à 2015. Tout de suite, Serge parlait de gestion de ces fonds. Alors, qu'est-ce qui explique cette situation?
Bon, je crois que le rapport 2015 du vérificateur général n'est pas très loin des autres rapports. Et en termes de manque à gagner et en termes de sort réservé au rapport, en fait. Quand vous regardez, par exemple, les mêmes services ont été épinglés, les mêmes recommandations ont été formulées, c'est pourquoi lorsque le vérificateur a remis son dernier rapport au président de la République, beaucoup de nos concitoyens ont dit que ce rapport également sera logé dans un tiroir. Mais je pense que à ce niveau, moi je vais un peu gratigner nos amis de la justice par rapport à cela, parce que en recevant le rapport, le président a non seulement réitéré son soutien ferme au vérificateur et à l'ensemble de ses collaborateurs, mais il a également dit, je cite, « J'engage le gouvernement à diligenter, n'est-ce pas, la mise en œuvre des recommandations contenues dans ce rapport et les suites judiciaires y afférentes. » C'est très clair. Donc moi, je pense qu'en la matière, la justice doit, une fois, s'auto-saisir, n'est-ce pas, pour que ceux qui se sont rendus coupables de ces différentes corruptions puissent répondre de leurs actes.
Est-ce que ces révélations vont être un handicap par rapport à la mobilisation des fonds concernant ce plan de développement des
fonds? Non, c'est réel. Moi, je pense même que le rapport là vient même au mauvais moment, parce que les gens ne peuvent pas mettre leur argent à la disposition du Mali quand on sait que le rapport 2015 révèle 70 milliards. C'est beaucoup quand même. 70 milliards dans ce que le Premier ministre cherche avec les partenaires, c'est vraiment beaucoup d'argent. Donc, je pense que c'est vraiment... le rapport est venu au mauvais moment. Ça peut effectivement handicaper la mission du Premier ministre à Paris et Bruxelles.
Bandiou Dante, vous, que pensez-vous de ce rapport du vérificateur général de 2015?
Bon, je sais quand même que ce bureau est composé d'hommes et de femmes compétentes, mais moi je souhaiterais que le langage que le bureau du vérificateur tient soit en conformité avec la capacité de compréhension du citoyen lambda. Parce que quand on parle de manque à gagner, on parle de fraude, on parle de perte, bon. Je pense que souvent quand on dit que on annonce des montants importants, les gens ont parfois l'impression que c'est quelqu'un qui s'est présenté dans un service avec un sac et qui est parti avec tout l'argent. Or, en réalité, le plus souvent, les choses ne sont pas bien expliquées. Et l'on se rend compte souvent, parfois, que, bon, honnêtement, est-ce que ce service technique-là, chargé de vérifier, comme le nom l'indique, la gestion des dépenses publiques, est-ce que ceux-ci ont fait correctement le travail, est-ce qu'il y avait des erreurs, qu'il y avait des recommandations. Mais à partir du moment où, depuis la création du bureau du vérificateur général, les rôles et responsabilités de tout un chacun ont été clairement définis, si le vérificateur fait son travail, maintenant, qui ne fait pas son travail? Et pourquoi il ne fait pas son travail? Je pense que la communication serait véritablement à ce niveau. Pourquoi l'on n'a pas le courage de faire le travail? Donc, ce que je pense, il faut que les mots techniques employés par le bureau du vérificateur général soient en conformité avec la faculté de compréhension du malien lambda. Et en même temps, au bout du rouleau, ou encore dans la chaîne, qu'on sache réellement qui doit faire quoi et pourquoi il ne le fait pas.
D'accord.
Donc, moi, j'interpelle plus ou moins le président de la République. Au lieu d'engager le gouvernement, il sait déjà qu'il ne fait pas son travail.
D'accord.
Je pense que le vérificateur, il a fait son travail en présentant un rapport.
D'accord.
Il a été instruit.
Oui.
Au gouvernement de diligenter.
D'accord. Tout de suite, vous aurez la parole, Dante. Serge Bandiou Dante interpelle le gouvernement, alors que Jakar Diaye aussi disait tout de suite que le président avait demandé à tout un chacun, à la justice notamment, de faire son travail par rapport à cela.
Non. Il y a une espèce d'hypocrisie collective par rapport à ces rapports du vérificateur. Moi, je pense que ce sont des hommes compétents, des hommes et des femmes compétents qui publient un rapport avec une méthode de travail assez sérieuse. Quand on dit 70 milliards de francs CFA, ça fait partie de ce que l'État a perdu, ça fait partie des détournements, il faut tenir compte de ça, le non-respect des procédures, du non-recouvrement, mais ce sont, ce qu'il faut dire, et c'est important, ce sont des fonds publics, ce ne sont pas des fonds privés perdus, c'est l'État qui perd de l'argent. Et 70 milliards de francs CFA, je vous fais une petite analyse, une petite comparaison. Nous avons au Mali 8 institutions de la République. Pour que les 8 institutions de la République fonctionnent, il faut chaque année 40 à 50 milliards de francs CFA pour faire fonctionner l'État, pour faire fonctionner les 8 institutions de la République. Pour que ça fonctionne, il faut 50 milliards de francs CFA. Et là, par exemple, vous avez un manque à gagner de 70 milliards de francs CFA. C'est-à-dire, vous avez quasiment une fois et demie ce qu'il faut pour faire fonctionner toutes les institutions de la République qui disparaissent. Mais c'est pas possible. Il faut quand même qu'on puisse s'y réveiller. Il faut quand même qu'on puisse savoir où se passe l'argent. Vous parlez du président de la République qui demande aux vérificateurs publiquement de faire son travail. Mais c'est pas, ça ne suffit pas. Le ministre de la Justice a parlé récemment. Il a dit qu'il n'y a pas, le Mali est quasiment le seul pays où moins d'1% du budget est consacré à la justice. Enfin, je ne me souviens plus des chiffres qu'il a avancés, mais c'est quelque chose de dérisoire. Il faut donner la possibilité au pôle économique de faire son travail, pour faire des enquêtes, puisque c'est à charge et à décharge. On ne va pas chasser, pas parce que le vérificateur dit que il y a un manque à gagner de 100 millions dans ce service, que le directeur du service est un voleur. Il faut l'écouter. Donc ça prend du temps. Il faut pouvoir mener les enquêtes. J'ai toujours ensuite l'habitude de dire, quand un État fait semblant de payer ses fonctionnaires, les fonctionnaires font semblant de travailler. Et quand les fonctionnaires font semblant de travailler, l'État fait semblant de les payer. Il faut revoir le salaire des gens. Je ne suis pas en train de justifier la délinquance. Mais je dis qu'il faut aborder enfin le travail. En amont, le problème en amont, et en aval. Et pour commencer, il faut arrêter, de mon point de vue, pendant 2 ou 3 ans, ces rapports du vérificateur général. C'est-à-dire que pendant 2 ou 3 ans, il y a une structure qui se consacre à demander des comptes sur des rapports précédents. Parce que sur les rapports précédents, vous avez des dossiers qui s'accumulent et qu'on ne s'en sort jamais. Chaque année, Il y a un rapport du vérificateur général, mais on se rend compte que l'État ne veut pas ou l'État n'a pas assez de moyens à mettre à la disposition de la justice pour faire son travail. Ça, c'est un. Mais de l'autre côté, il faut quand même resserrer les boulons. C'est-à-dire que si on dit qu'il y a, par exemple, dans les procédures de décaissement, des détournements ou des anomalies, il ne faut pas que chaque année, on revoie les mêmes anomalies. Donc, il y a à sanctionner également ceux qui sont en faute, et ça ne va. Alors, l'impression qu'on a, c'est que le président de la République est très heureux, chaque année, de recevoir le vérificateur, aux cérémonies officielles, de très beaux boubous, de très beaux costumes, mais rien ne change. Donc, je ne vois pas pourquoi on va continuer à publier ces rapports. D'accord. Il faut faire quelque chose.
Bandjougou Danté, rien ne change, beaucoup de rapports, on ne voit pas de suite. Et aujourd'hui, Serge Daniel demande qu'on revoie également la condition les conditions de vie des employés, c'est-à-dire augmenter par exemple leur salaire. Mais est-ce que même si on augmentait leur salaire, vu que c'est une habitude, il n'y a pas de sanction, la situation va changer?
Bon, moi je pense qu'effectivement il s'agit pas seulement d'augmenter les salaires, mais il s'agit de faire en sorte que les produits soient accessibles à un prix abordable. Même si les gens sont payés à 50 000 francs par mois, si les 50 000 leur permettent d'avoir le nécessaire, c'est déjà bon. Il ne s'agit pas d'ajouter 10 000 francs sur les salaires et que les prix connaissent une flambée significative, ce qui peut engendrer des difficultés. Alors, je pense qu'effectivement, il n'y a pas de sanction. Toujours est-il que c'est le même cinéma, excusez-moi.
Alors, pourquoi il n'y a pas de sanction?
Bon, cette question doit être certainement posée à ceux qui sont chargés de sanctionner. Bon, apparemment, soit les gens ne sont pas très sûrs de ce qui se passe, soit les gens ne sont pas convaincus, ou soit ce qui est dit n'est pas bien fondé, soit il y a un manque de volonté politique, soit un manque de courage.
D'accord. Jakar Diaye aussi, est-ce que cela veut dire que ceux qui doivent sanctionner sont aussi impliqués, c'est ce qui empêche les sanctions?
Bon, ça c'est un ensemble de tout. Je me souviens encore avec l'ancien procureur général Tessoué, où on disait que 200 dossiers avaient été transmis à la justice, le procureur général disait qu'il n'avait rien reçu. Donc ça rejoint un peu ce que les confrères Serge et Danté viennent de dire. C'est comme si l'ensemble des différents acteurs se sentant coupables, s'entendent vraiment pour que rien ne se passe. Je pense que il faut que la justice sévisse. L'une des solutions passe par là, sinon les rapports vont se succéder et n'inquiéteront personne.
D'accord. Serge Yossi a dit tout de suite que ce rapport ne venait pas au bon moment. Est-ce que le vérificateur devrait également retarder ce rapport pour attendre la mobilisation des fonds avant de publier ce rapport?
Non, pas du tout. Il ne faut pas attendre, justement, parce que vous savez, les institutions, les diplomates qui sont dans vos pays, dans nos pays, les institutions financières sont au courant quasiment de tout. À un moment, le bureau du représentant du FMI était à l'intérieur du ministère des Finances, ici. Donc, tout ce qui est photocopie, tout ce qui est réunion, donc on sait à peu près. C'est-à-dire que là, le rapport est plus précis en parlant de 70 milliards de francs CFA, mais si vous prenez les institutions et les chancelleries qui sont chez nous, qui sont au Mali, ces institutions peuvent savoir que globalement, il y a plus de 40 milliards de francs CFA qui manquent dans les caisses de l'État. Il faut avoir le courage de publier ces rapports, ça c'est une chose, c'est très important je trouve, mais il ne faut pas que ça soit seulement de mon point de vue, et que ça se limite à une cérémonie officielle, on publie les rapports, ensuite le président de la République se défend en disant « j'ai donné les instructions, la justice n'a pas suivi », c'est de A à Z qu'il faut suivre ces rapports-là. Et c'est ce qui manque le plus. Moi, j'aimerais bien voir un rapport, par exemple, 2015, où on dit « voilà ». L'année dernière, voilà ce que nous avons reproché à l'État. Voilà ce que nous avons fait. Voilà ce qu'on a récupéré. Aujourd'hui, voilà ce qu'il faut faire. Voilà ce qu'il faut pas faire. Alors, il faut pas que ça soit le principe du marronnier. Vous savez, le principe du marronnier pour les journalistes, c'est un événement qui, chaque année, à tel endroit, à tel moment, se déroule. Parce que, voilà, il y a une espèce de banalisation de ces rapports qui laisse à désirer. Regardez un peu le grand siège, le siège Maroust du vérificateur général, on dirait une primature, si vous voulez. Donc c'est quelque chose de très important.
Alors, faut-il pas s'interroger sur l'utilité de ce bureau?
C'est ce que je voulais dire. Vous m'aidez à dire ce que je ne voulais pas dire aussi brutalement. Est-ce qu'ils sont utiles? Est-ce qu'ils sont utiles? Je parlais des institutions tout à l'heure de la République. Vous avez 8 institutions. Vous avez 50 milliards pour faire fonctionner ces institutions par an. Et vous avez le rapport du vérificateur qui vous dit il y a un manque à gagner de plus de 70 milliards. Donc c'est quasiment une fois et demie ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pour faire fonctionner l'État. Donc il y a quand même un problème.
D'accord.
Retroussons les manches, voilà, et arrêtons de chanter, arrêtons de rigoler. La récréation doit être enfin terminée pour qu'on puisse avancer.
Dante, avez-vous quelque chose à dire par rapport à l'utilité de ce bureau?
Bon, moi je pense qu'il y a beaucoup de structures de contrôle au Mali. Mais ce bureau du vérificateur a été tellement annoncé en grande pompe, on a tellement compté sur ce bureau, au point que finalement, j'ai le sentiment que ce qu'on met dans l'entretien du bureau risque d'être supérieur à ce que le bureau engendre comme revenu pour le pays. Donc il faut s'interroger.
À quoi peut-on s'attendre comme solution pour mettre fin à ces malversations?
Il n'y a qu'une volonté politique réelle et forte pour mettre fin à ça. Mais une volonté politique objective, sincère.
D'accord. Monsieur Yossi, vous avez-vous une autre solution?
Non, moi je vais peut-être répéter ce que j'ai dit. Parce que tant que les gens se rendent compte que les rapports se suivent et se retrouvent dans les tiroirs, et nul n'est inquiété, ça ne va pas changer. Serge l'a dit un moment, il faut qu'en présentant un rapport, qu'on soit à mesure de dire ce qu'on a fait du précédent. C'est là extrêmement important.
Est-ce que les Maliens ne peuvent pas se lever pour demander des résultats par rapport à ces rapports?
Bon, je crois que l'exercice auquel nous nous prêtons actuellement procède de cela. Mais de façon générale, est-ce que le rapport, Dante l'a dit lors de sa toute première intervention, ce rapport, comment le perçoivent les Maliens? Moi, je pense que les gens qui s'en émeuvent, c'est plutôt les intellectuels. Sinon, l'écrasante majorité des Maliens, les populations rurales notamment, ne savent que faire du rapport du vérificateur général.
Serge, si la volonté politique jusqu'à présent n'aide pas pour le moment, est-ce que le citoyen lambda, lui, pourra faire changer la donne?
Je pense. L'un des handicaps ici, c'est que nous n'avons pas de société civile forte. Nous avons eu ce que j'appelle une nouvelle conscience nationale à l'époque du référendum, la plateforme montée en banane.
Oui.
Ils ont fait reculer le président de la République. Oui. On ne demande pas à tous les jours aux gens de descendre dans les rues de cette manière, mais s'il y avait une société civile assez forte, une société civile qui ne se limite pas chaque nouvel an à aller présenter des vœux au président de la République en lui disant « vous êtes le plus beau, vous êtes le plus fort », si on avait des garde-fous, des contre-pouvoirs efficaces, si la presse avait vraiment de l'influence comme ailleurs, je pense que les gens auraient peur. Mais les gens n'ont pas peur. Pourquoi ça ne change pas? Ça ne change pas en fait parce que les gens n'ont pas peur. Les gens se disent, écoute, nous, il ne faut pas avoir peur. Parce que même si tu vas peut-être en prison, 2 ou 3 mois, tu vas sortir. Vous avez vu combien de dossiers, des dossiers les plus importants, qui n'ont pas abouti. Certains ont abouti, mais pas tous. Donc il y a le manque de peur chez les gens. Ensuite, pour terminer, les gens se disent, mais nous, les gens ne donnent pas le bon exemple. Ceux qui sont devant ne donnent pas le bon exemple. Pourquoi voulez-vous que ce soit nous qui donnons le bon exemple? Donc il y a une conscience nationale à faire renaître. Et à mon avis, ça ne passera que par l'éducation.
D'accord. Réagissez à toutes ces informations sur la page Facebook ou le compte Twitter de Studio Tamani ou encore sur nos répondeurs à travers ces deux numéros, 75 84 11 11 ou 75 84 12 12.
Vous écoutez Studio Tamani, votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
C'est le forum de la presse, 3 journalistes qui donnent leur point de vue sur l'actualité de la semaine. Serge Daniel, Diakaridia Yossi et Bandjougou Dante, Paul Ben n'est pas disponible. Alors nous allons maintenant parler de processus de paix. Cette semaine, un compromis entre la CMA et la plateforme pour l'application de l'accord de cessez-le-feu du 20 septembre dernier. Les deux mouvements sont parvenus à un document d'accord à Anéfis à l'issue de plusieurs jours de discussion. Serge, est-ce que ce n'est pas un accord de plus?
Écoutez, là, il faut attendre de voir. Avant, j'étais plus catégorique dans mes prises de position, mais je suis assez prudent. Pourquoi? Parce que si vous lisez le document, la plateforme et la CEMA reconnaissent que Takalout, c'est la base militaire de la plateforme. Ça, c'est quand même nouveau. Vous savez que Takalout est un site mais qui est considéré comme la base militaire de la plateforme, qui avait été reprise par la SEMA. La SEMA accepte de laisser à la plateforme Takalut, en disant, on reconnaît que c'est votre base. C'est quand même quelque chose d'important, c'est-à-dire que les gens se rapprochent de Kidal, et cela veut dire quoi ? Ça pense tout de suite au cantonnement. C'est-à-dire que les troupes seront cantonnées non loin de là où elles sont. Et que si le rêve des combattants de la plateforme, c'est d'être notamment cantonné à Takalut. Donc, à Takalut, mais également probablement à Kidal. Mais le fait de se rapprocher de Kidal, le fait de voir la SEMA accepter qu'il se rapproche de Kidal, peut-être qu'il y a quelque chose qui se dessine.
D'accord. Les deux mouvements ont convenu de la mise en place de 4 commissions chargées de la sécurité, de la justice, de la politique et de la réconciliation. Dante, ces commissions vont changer quoi dans la situation du pays ?
Bon, honnêtement, cette situation, tout ça n'en est pas à la limite. Peut-être que nous sommes un peu loin du théâtre de la réalité des faits. Tout ça, là, c'est compliqué, c'est parfois difficile à comprendre. Je pense que des mouvements qui ont signé un accord, des mouvements qui sont en partenariat avec l'État, signent des accords dans des accords. Bon, je crois qu'il faut que les uns et les autres pensent aux populations civiles qui sont en train de subir les conséquences de ces malentendus-là ou de ces conflits. Je pense que vraiment, il est temps qu'on sort de la signature d'accord et que les uns et les autres aient une vraie volonté pour la paix, pour la réconciliation. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait qu'ils essaient de mettre en place des commissions.
Vous pensez qu'il y a un manque de bonne volonté ?
Bon, de toute façon, ce qui montre, ce qui est là quand même, ce n'est pas la bonne volonté. Parce que la bonne volonté veut que les enfants aillent à l'école. La bonne volonté veut que les projets de développement fonctionne. La bonne volonté est que l'État, à travers ses services techniques, retourne pour servir les usagers. Mais s'il faut parler de questions politiques, questions de ceci, questions de cela, que les armes se taisent et qu'on les abandonne.
D'accord. Jakar Diaye aussi, que pensez-vous de cette multiplication des accords entre groupes armés ?
Bon, sincèrement, je pense que ce dernier peut annoncer de nouvelles perspectives. Serge a parlé de la localité de Takalut, mais au-delà, moi, j'ai lu des passages où on dit que désormais, pour se déplacer d'un lieu à un autre, n'est-ce pas, il faut que les mouvements soient coordonnés et de commun accord. Ça, c'est extrêmement important parce que ça pourrait éviter les attaques surprises. Également, un autre passage où on dit que désormais, toute personne qui se rendrait quand même coupable d'homicide ou de spoliation de biens des populations s'expose à des graves sanctions et ne pourra bénéficier d'aucune couverture. Je pense que ce sont là des aspects extrêmement importants. Ce n'est pas un accord comme les autres parce que dans les précédents accords, ça c'est des passages qui n'avaient pas été notifiés. Surtout que la localité de Takalut, sa perte était était une question d'honneur pour la plateforme. Le fait pour la SEMA d'accepter que la plateforme revienne à Takalut, je pense vraiment que c'est un grand pas qui vient d'être franchi dans l'atteinte de la paix.
Alors, nous sommes à la rentrée scolaire aujourd'hui, l'école a repris aujourd'hui cet accord. Est-ce qu'il ne peut pas permettre également la réouverture de ces plus de 500 écoles qui étaient fermées à la fin de l'année scolaire précédente ?
Bon, c'est pas évident. La reprise des cours dans les différents établissements au nord ne peut pas être conditionnée à ce seul accord. C'est un ensemble de tout. Il faut d'abord les infrastructures, il faut le personnel enseignant. Et une fois les infrastructures, le personnel enseignant disponible, il faut leur sécurité. Donc c'est un ensemble de tout. Cet accord, malheureusement, ne pourra pas...
Est-ce que ces deux groupes armés même qui constituent un blocage par rapport à la réouverture de ces écoles ?
Non, pas seulement. Dans le nord du Mali, il n'y a pas que la plateforme et la SEMA. Il y a d'autres mouvements terroristes. Il y a le mouvement en Sardine, il y a ACMI. Donc, ce n'est pas seulement ces mouvements, mais le fait, puisque ce sont les mouvements reconnus officiellement avec qui le gouvernement discute, donc ces mouvements peuvent contribuer, mais ce ne sont pas les seuls.
D'accord. Serge Dante l'a dit tout de suite, les gens commencent à se dire, bon, franchement, il y a trop d'accords, nous sommes fatigués. Est-ce qu'on peut sentir un découragement au niveau des partis également ?
Ah oui, c'est sûr, parce que lorsque vous mettez votre argent dans une affaire qui traîne en longueur et dont on ne voit pas le bout du tunnel, vous pouvez vous dire, mais finalement, les acteurs sont de mauvaise foi. Je vais vous dire, c'est un accord, on ne peut pas parler de mauvais accord. C'est un accord qui peut permettre d'avoir de l'espoir comme d'autres accords. Mais la prochaine étape, et c'est ce qui va devenir très déterminant, les groupes armés, vous avez vu le dernier rapport de l'ONU sur la situation au Mali, c'est-à-dire mi-juin, mi-septembre. Ce que dit le rapport, c'est que le rapport dit par exemple que si ça n'a pas évolué, c'est parce que les groupes armés ont refusé de donner à l'ONU, à la MINUSMA, la mission de l'ONU, de donner à la mission de l'ONU la liste de leurs combattants dans le cas du désarmement. Ça va être un point très important. Puisque maintenant les autres peuvent venir à Takalout, en principe, on va voir si les groupes d'armées vont donner la liste de leur groupe, de leur mouvement. Et c'est là où ce sera l'heure de vérité. Il y a deux lettres que j'ai vu de l'ONU aux groupes d'armées. La première lettre, c'est la lettre qui demande aux groupes d'armées de fournir, conformément à l'accord d'Alger, la liste de leurs combattants. Ça a été non pour le moment. La deuxième lettre, qui est partie cette fois-ci de l'état-major de la MINUSMA en direction des groupes d'armées, c'est de demander aux groupes d'armées de communiquer le numéro de leurs armes, les armes qu'ils détiennent, pour justement faire ce que vous étiez en train de dire, pour qu'on fasse une différence entre les armes des groupes d'armées et les groupes armés dans le processus et les groupes armés terroristes. Là aussi, on n'a pas eu de réponse. Donc voilà deux éléments qui, à mon avis, si on a des réponses assez rapidement, nous pouvons voir de manière claire que nous sommes dans la direction de la paix.
Mais vu qu'il n'y a pas de réponse, alors est-ce qu'on peut être optimiste?
Nous sommes le 13. En principe, c'est le 15. Peut-être qu'au moment où nous sommes en train de parler, ils sont en train de faire leur liste. Je pense en tout cas que quand la liste va paraître, quand on aura la liste, on saura effectivement qui est qui sur le terrain. Et vous aurez des surprises sur le terrain parce que vous allez voir par exemple que les gens déclarent aujourd'hui qu'ils ont tel nombre de combattants alors qu'ils n'ont pas tel nombre de combattants. Vous allez voir que les gens pensaient qu'ils avaient des armes lourdes, etc. Ils ont des armes lourdes, ça on le sait. Vous allez voir que dans la liste qu'ils vont dresser, il n'y a pas d'armes. C'est là où vous allez savoir si les gens sont sincères ou si les gens ne sont pas sincères.
Dante, vous étiez en train de réagir tout de suite, alors poursuivez.
Bon, honnêtement, l'information donnée par c'est une très bonne information parce que moi je pense que si ce processus aboutit, c'est en quelque sorte une transparence désormais dans la gestion de la crise. Et ça, je pense que la paix est possible. Si on répond à ces deux équations-là, notamment la liste des combattants et la liste des armes, c'est un début de solution, sinon même la solution.
D'accord. Il y a la plateforme Anté-Abana qui avait demandé une relecture de cet accord pour la paix. Alors aujourd'hui, il y a quelques semaines, ils ne parlent plus de cela. Est-ce que cela veut dire qu'ils sont revenus sur leur décision?
Bon, moi je pense que nous avons eu à parler de ce sujet lors d'un débat passé. Il faut que les gens sachent raison garder et défendons ce qui est objectivement possible. Ce n'est pas à partir de Bamako qu'on peut demander la révision d'un accord qui se fait comment arracher. Et arracher avec qui? Et comment on a procédé effectivement à un blanchiment de certains groupes dits fréquentables? Donc honnêtement, soyons sincères et comprenons la réalité sur le terrain.
D'accord. Partagez-vous l'avis de M. Dante et vous, M. Youssi?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Dante. Ce n'est pas aujourd'hui que la plateforme Anté-Abana peut demander au Mali, n'est-ce pas, de revoir certaines parties. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas le Mali seulement qui l'a signé. La communauté internationale, n'est-ce pas, est quand même garante de cet accord-là. Donc je pense que ce n'est pas vraiment le moment de demander de revoir quoi que ce soit.
Cette fin de l'année 2017 sera-t-elle un point marquant de la mise en œuvre de l'accord pour la paix?
Bon, nous l'espérons l'un dans l'autre. Lorsqu'on aura fini de faire le recensement des armes des combattants, le Premier ministre en déplacement, s'il parvient à décrocher les jackpots l'un dans l'autre, je pense que ça peut vraiment être un début de solution pour que en 2018, au plus tard, les enfants puissent aller à l'école, que l'ensemble des citoyens puissent vaquer librement à leurs affaires sur toute l'étendue du territoire du nord du Mali.
Un début de solution, mais jusqu'à présent, certains observateurs craignent le fait que selon selon eux, il n'y a pas de programme de mise en œuvre de l'accord.
Oui, non, mais je pense que l'accord est en panne, on ne va pas se fâcher. D'autres ont dit à un moment qu'il était caduque, etc. Je pense qu'on va s'en sortir. Parce que je vous ai toujours dit que dans l'histoire de l'humanité, il n'y a jamais eu une réunification d'un pays par le dialogue. Il y a eu deux cas, monsieur. Il y a eu la guerre, c'était le cas du Vietnam, par exemple, ou de la Côte d'Ivoire, l'intervention militaire, ou l'effondrement. Dans le nord du Mali, je suis persuadé qu'on s'en sortira plus tôt par la gouvernance. Vous avez vu ce qui s'est passé aujourd'hui à Kidal. On n'a pas mis la charrue avant les bœufs, parce que pour aller à Kidal, à chaque fois, on disait l'armée. Aujourd'hui, nous avons un gouverneur qui est à Kidal. Il lui est rien arrivé, je touche du bois, il lui arrivera rien. Il prépare le retour de l'administration, le retour de l'armée, c'est par la gouvernance, à mon avis, qu'on pourra s'en sortir. Mais il faut que toutes les parties, notamment militaires, soient sincères dans ce qu'elles font sur le terrain.
Ah, il nous reste 5 minutes et là, nous allons parler de sport. Rebondissement dans l'élection du nouveau président de la Fédération malienne de football, FEMAFOOT, alors que Mamoutou Touré Dibavié a été déclaré successeur de Boubacar Baba Diarra, à la tête de l'instance dirigeante du football. Son challenger, Salah Babi, conteste et récuse sa légitimité. Monsieur Bandjougou Danté, vous, que pensez-vous de cette crise au sein de la Fédération malienne de football?
Nous en avons marre. Nous aimons le football, mais nous n'aimons pas ceux qui créent le problème dans le football. Si réellement c'est pour servir le football malien, tous ceux-là qui sont là, depuis combien de temps, en train de nous créer des faux problèmes, en train de nous créer des problèmes d'individu à individu, mais ils n'ont qu'à laisser la place à une nouvelle génération d'hommes maliens aimant le sport, comme la majorité des Maliens d'ailleurs. Mais chaque jour des problèmes, nous en avons marre.
D'accord. Une élection qui s'est tenue sans la présence de la CAF et de la FIFA, qui devraient être là pour gérer cette situation. Est-ce qu'on peut s'attendre à une solution, M. Youssi?
Bon, c'est tout. Moi, je suis un néophyte en sport, foot principalement. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que pour devenir président de la Fédération de football du Mali, c'est plus difficile là-bas que pour devenir président de la République. Les hommes politiques, malgré les dizaines de partis politiques, arrivent à s'entendre. Et ces deux camps n'ont pas réussi, n'est-ce pas, ce challenge-là. Moi, je me dis que les enjeux doivent être assez élevés.
D'accord, Serge.
Moi, le problème, c'est que quand je vois tous les problèmes qu'il y a pour organiser des matchs de football, pour le financement du foot, le sport, pour construire des stades, acheter des crampons, je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont à chercher à devenir président de la fédération? Quand je vois tout le bruit que ça fait, je pense qu'il doit avoir des avantages qu'on ne connaît pas. Ce n'est pas que la passion. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas, vous voyez ce qui s'est passé dans les réunions, bagarre dès le début, les gens sont accusés de fraude, celui-ci a fait cela, bagarre généralisée, jet de gaz lacrymogène, alors que c'est pour la paix d'un pays qu'on choisit un dirigeant. Donc il faut quand même que l'État prenne ses responsabilités. J'ai toujours dit aux gens, oui c'est vrai la fédération est indépendante, mais qui, quand il y a des problèmes de sécurité? Vous avez vu ce qui s'est passé dans un hôtel la dernière fois lors des élections? Si la gendarmerie et la police n'étaient pas là. Donc l'État a sa part de responsabilité dans cette affaire. L'État doit jouer son rôle dans cette affaire-là. Et donc tant qu'on ne va pas à faire asseoir tous les groupes, parce qu'il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas de contestation lors des élections. On a entendu tel est du Sud, tel est du Nord, il n'a pas le droit d'être président. Mais zut, l'équipe nationale est composée de Maliens du Sud, du Nord, de l'Est et de l'Ouest, hein, oui. S'il vous plaît. Donc je pense que l'État a une part de responsabilité dans cette affaire. Il faut prendre ses responsabilités, quitte à être sanctionné par la Fédération internationale de foot. Comment on va recommencer le championnat? Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va développer le foot? Les footballeurs maliens qui sont à l'étranger. Mais tout ça, ça fait un grand bordel, comme le dirait l'autre, excusez-moi.
D'accord. Bandjougou Danté, certains aussi se posent une autre question qui est, où va-t-on? On disait qu'on veut la paix entre le Nord et le Sud. Aujourd'hui, au Sud même, les présidents n'arrivent pas à s'entendre par rapport à la gestion de la Fédération malienne de football. Aujourd'hui, où va le Mali? Est-ce que vous avez une réponse à cette question?
Honnêtement, j'aimerais essayer de dire quelque chose à mon ami Serge. Ceux qui parlent de Nordistes, de Sudistes dans la crise du football, la solution que des prestations, en réalité, ce ne sont pas des arguments soutenables. C'est que les gens en conflit trouvent toujours des mots pour déchirer. Sinon, en réalité, ça n'a rien à voir avec question du Nord ou question du Sud.
Il y a Serge qui demande à l'État d'assumer sa responsabilité. Pour le processus de paix, on a fait appel à la communauté internationale. Et pour gérer cette crise également, il y a la CAF et la FIFA qui sont là. Le ministère du Sport n'arrive pas à gérer cette situation.
L'État peut assumer sa responsabilité à condition que nous acceptions d'être suspendus ou qu'on arrête de parler pour nous pendant quelques années.
D'accord.
Et moi, je crois que si c'est nécessaire, là, pour balayer tous ces gens qui sont là aujourd'hui, il faut le faire.
Est-ce que Diakar Diaye aussi, l'État va assumer sa responsabilité?
Bon, l'État doit le faire.
D'accord, merci. Et c'est ce qui met fin à ce forum de la presse. Nos invités, Serge Daniel, Diakar Diaye aussi, Bandjougou Danté, tous journalistes. Débat réalisé par Fatmata Togola, mise en onde assurée par Seydou Mbo, à la régie vidéo Mamadou Yattara. Je suis Mohamedou Touré et vous pouvez retrouver ce débat sur notre chaîne YouTube.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edewani Wamakaran.
Le grand dialogue de l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dmandi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.